Bonjour à tous, tous ceux que je n'ai pas vus. On est heureux de se retrouver pour entendre la douce voix du Seigneur comme on l'a chanté. Vous comprenez bien que ce n'est pas ma voix, enfin vous l'avez bien entendu, mais c'est la douce voix du Seigneur, c'est la voix de l'Esprit. Le Seigneur nous a promis qu'il était au milieu de nous quand on s'assemblait en son nom. Et vous savez, le Seigneur c'est le même. Ce qu'il a fait, est-ce qu'on lit qu'il a fait, il le fait encore aujourd'hui. Et cet après-midi, tout peut changer dans une vie parce que Jésus est là. Et que quand il est là, alors il peut vraiment tout transformer. Mais ce qu'il nous demande, notre part, c'est de mettre notre confiance en lui. Et c'est ce qu'on va faire. Vous êtes d'accord? C'est ce qu'on a fait. C'est qu'on va faire confiance à Jésus pour ces moments. Et nous croyons, et nous savons même, que le Seigneur bénit parce qu'il est là. Et là où il est, bah c'est déjà une bénédiction, sa présence. Mais en plus de cela, il aime à nous faire du bien. Alors on va faire une première lecture dans l'évangile de Luc au chapitre 12. Et on va lire à partir du verset 13. Donc c'est Jésus qui enseigne. Et à un moment, un homme va l'interrompre et va lui demander quelque chose. Donc c'est dans l'évangile de Luc au chapitre 12, à partir du verset 13. On va lire jusqu'au verset 21. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice. » Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance ? Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme, riche, avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je ? Car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. » Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé? Pour qui sera-ce ? » Il en sera ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. Amen. Donc dans ce texte, on a un homme qui va poser une question à Jésus. Il va lui demander de dire à son frère de partager l'héritage. En fait, on voit qu'il est dans ce texte parlé plusieurs fois de richesse. Il y a un homme qui veut une partie de l'héritage, et puis Jésus va donner une parabole concernant des richesses. Et c'est de ça dont on va parler cet après-midi, les richesses. Alors je vais vous poser cette question. Êtes-vous riche ? Ah, si j'étais riche. Hein ? Êtes-vous riche ? Ça dépend. Vous allez me dire, de quoi ? Les richesses. Souvent, c'est quoi ? Quelqu'un de riche, généralement, on dit que c'est quelqu'un qui a... On pense, en tout cas, que c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses. Vous savez, et notamment beaucoup d'argent. Vous savez ? Ça, c'est le riche. Et puis, souvent, on dit qu'il y a des gens qui sont pauvres. La pauvreté, c'est quoi ? C'est quand on a peu de choses, qu'on n'en a pas beaucoup. Vous êtes d'accord avec ça ? Bon, c'est les richesses. C'est les richesses. Et vous savez que dans la vie, dans le monde que l'on est, il y a des gens qui sont plus riches que d'autres. Vous êtes d'accord ? On côtoie des gens qui ont plus de choses que nous, et puis des fois, c'est nous qui avons plus de choses que certaines personnes que l'on côtoie. Par exemple, j'ai regardé, juste pour information, l'homme le plus riche du monde. Alors, c'est le patron d'Amazon, il a 131 milliards de dollars. Ça fait beaucoup de sous, hein ? 131 milliards. Et j'ai regardé, le pays le plus pauvre, c'est le Soudan du Sud. Là-bas, ils ont très peu de choses pour vivre. Il y a des richesses. Et on voit que dans cette parabole, on avait un homme qui, lui, s'intéressait à ses richesses d'ici-bas. Notamment, il y avait un problème d'héritage. Et donc, cette personne-là a voulu faire recours à Jésus pour traiter ce problème. On voit que Jésus va lui dire, mais attention, il va dire, mais ô homme, il ne va pas vouloir le faire au final. Parce qu'il va montrer par là que le Seigneur, Jésus, n'est pas intéressé par ces histoires d'argent. Et vous savez, la fin de cette parabole, Jésus va dire, « Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, mais qui n'est pas riche pour Dieu. » Ça veut dire qu'on peut avoir des richesses sans pour autant être riche aux yeux de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Ce qui veut dire que pour Dieu, la richesse n'est pas forcément celle que nous on pense, c'en est une autre. Et on voit qu'au travers de cette parabole, Jésus a voulu montrer à la foule et à cet homme en particulier que ce qui était important, ce n'était pas les histoires d'argent ici-bas, ce qui était important, c'est d'être riche pour Dieu. Mais on voit un homme au final qui lui avait fait des bonnes récoltes, qui voulait amasser des trésors ici-bas, mais Dieu va lui dire qu'il est un insensé. Parce qu'au final, il aura tout préparé pour son corps, mais il n'aura rien préparé pour son âme. Et vous savez qu'on peut être riche extérieurement et pauvre intérieurement. Et on peut avoir l'inverse. On peut avoir pas beaucoup de biens, mais par contre être riche intérieurement. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que pour Dieu, la richesse que l'on a ici-bas n'a aucune importance à ses yeux. La Bible dit, c'est dans le Proverbe au chapitre 22 au verset 2, que le riche et le pauvre se rencontrent et que c'est Dieu qui a fait l'un et l'autre. Dieu a fait les deux. Et il peut donner les richesses à qui il veut, il peut enlever les richesses à qui il veut. Mais ça n'a pas d'importance à ses yeux. Il y a un autre texte dans le livre de Job où il est écrit, c'est dans Job au chapitre 34 et au verset 17. Donc c'est un homme qui s'appelle Élihu qui parle avec Job. Il va lui dire, donc au verset 17, et condamnerais-tu le juste, le puissant, donc il parle de Dieu, au verset 19, qui n'a point égard à l'apparence des grands et ne distingue pas le riche du pauvre, parce que tous sont l'ouvrage de ses mains. Donc on voit qu'il ne distingue pas le riche du pauvre, c'est-à-dire que, au final, que l'on ait des sous ou qu'on n'ait pas de sous, C'est pas ce qui compte pour Dieu. Ce qui compte pour Dieu, c'est la richesse intérieure. C'est la richesse du cœur. Un autre texte que l'on peut lire dans l'évangile de Matthieu. Alors on va feuilleter nos Bibles cet après-midi. Dans le sermon sur la montagne, que Jésus a fait sur une montagne, dans Matthieu au chapitre 6 et au verset 19. Attendez. Où il est écrit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc on voit que ce que le Seigneur Jésus demande, c'est de ne pas amasser sur la terre. Et il y a même un proverbe qui dit qu'il ne faut pas appliquer son intelligence à s'enrichir. Mais de s'amasser un trésor dans le ciel. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ça veut dire qu'il y a des trésors qui sont dans le cœur. Alors on peut se poser cette question, mais c'est quoi les choses alors qui ont de la valeur aux yeux de Dieu? Quelles sont les choses qui pour Dieu sont précieuses? Et qu'au final, il nous demande d'avoir. Puisqu'on a vu que ce n'est pas les richesses d'ici-bas. Alors c'est quoi? Il y a plusieurs textes qui peuvent nous montrer ces choses-là. Par exemple, on a un texte qui est bien connu dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 13. Exactement. Par exemple, il y a l'amour. Il est écrit, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Vous voyez ? Ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu, l'amour. Même plus encore que tout ce qui est des dons spirituels, des capacités que Dieu peut donner à un homme. Si je n'ai pas l'amour, je n'ai rien. Je ne suis rien. Un autre texte, par exemple, qui nous parle de ces choses qui ont de la valeur. Dans un premier épître de Pierre au chapitre 3, et au verset 3. C'est un texte qui s'adresse aux femmes, mais on voit que il y a quelque chose d'intérieur. Dans 1 Pierre chapitre 3 verset 3, donc c'est écrit: ayez non cette parure extérieure qui consiste dans des cheveux tressés, des ornements d'or ou des habits que l'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Vous voyez ? Un esprit doux et paisible. Alors, est-ce que ça veut dire, mesdames, qu'il ne faut plus de bijoux ? Non. Là, c'est écrit « ne vous parez pas ». Se parer, c'est en avoir en excès. On peut avoir le droit d'être élégante. Mais il y a quelque chose qui a plus de valeur que les ornements d'or, que les habits précieux que l'on peut avoir, c'est la parure intérieure. Un esprit doux et paisible devant Dieu. Et on voit au final que ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu, ce n'est non pas nos richesses ici-bas, mais c'est l'amour, la paix, la joie, toutes ces choses, de la bonté, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, toutes ces choses-là, ce sont des richesses. Et c'est des choses qui ont de la valeur aux yeux de Dieu. Vous savez, quand à un moment il est parlé du fruit de l'esprit, de toutes les choses que sa présence met dans nos vies, c'est tout ce qui a de la valeur au final. Et vous savez, on voit très bien que ceux qui ont des richesses matérielles, souvent ceux qui en ont beaucoup, beaucoup, on voit qu'il y a et intérieurement ils sont pauvres. D'ailleurs, certains sont complètement désespérés, ils n'ont pas d'espoir. Est-ce que des fois l'espoir n'a pas plus de valeur que les richesses? De savoir que ça va aller, de savoir que pour les jours qui viennent, ça va aller, plutôt que d'avoir de l'argent et de toujours avoir peur de tout et de n'importe quoi. Mais donc on voit que Dieu ne regarde pas aux richesses d'ici-bas, mais qu'il y a des richesses du cœur, qu'au final on peut être riche de cœur ou pauvre de cœur, parce qu'on voit que l'homme qui avait amassé du blé dans ses greniers, Dieu va dire qu'il était un insensé. Est-ce que vous savez qu'il peut y avoir encore l'état en dessous de pauvre? Le pauvre, c'est celui qui n'a pas grand-chose. Mais on peut avoir spirituellement le fait d'être endetté, d'avoir des dettes. Avoir des dettes. Quelqu'un qui a des dettes, c'est quoi? C'est quelqu'un qui doit quelque chose. Et la Bible nous dit que lorsque l'homme pêche, le salaire du péché, c'est la mort. Lorsque l'on fait du mal à quelqu'un, on a une dette envers lui. Vous savez, des fois, dans les tribunaux, on entend les gens qui disent « il faut qu'il paye !» En d'autres mots, il faut qu'il rembourse. Il faut qu'il rende justice par rapport à ce qu'il a fait, qu'il paye. Et vous savez, lorsque l'on fait le mal, lorsque au final, on n'a pas tout cet amour, cette paix, cette joie, mais qu'en plus de cela, on fait du mal à l'autre et qu'on accumule culpabilité sur une culpabilité, on a une dette. On a une dette envers Dieu et on a aussi une dette envers les personnes que l'on a offensées. C'est le poids de la culpabilité. Et vous savez que la Bible dit qu'on a tous péché, qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul sur cette terre. Et qu'à cause du mal que l'on a fait et du fait que Dieu est juste, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. On va prendre une parabole dans l'évangile de Matthieu, où justement on voit cette réalité. C'est dans Matthieu au chapitre 18. On va voir un homme justement qui était endetté. Et lorsque Jésus va donner cette parabole, on voit très bien que le contexte, c'est le pardon. C'est le pardon. D'ailleurs, en hébreu, le verbe pardonner, c'est le même mot que remettre une dette. C'est-à-dire que je pourrais dire je vous remets la dette, c'est la même chose que dire je pardonne. Et on voit, voilà ce qui est écrit. Donc dans Matthieu au chapitre 18 et au verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui, donc de Jésus, et dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Dans cette parabole, le roi, c'est Dieu. Il est roi, il est seigneur. Et les hommes, c'est ceux qui ont à rendre compte. Et la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. En d'autres mots, un jour, il faudra rendre compte. Il faudra rendre compte et payer les dettes. Verset 24, « Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents d'argent, c'est-à-dire des milliers d'années de salaire, une valeur astronomique. Astronomique. Et comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Et on pourrait le traduire, « lui pardonna ». Donc au final, on voit que cet homme avait une dette, mais qu'il n'avait pas de quoi payer. Et c'est vrai. Lorsque l'on se présentera devant Dieu, comment faire pour rembourser le mal que l'on a fait? Comment faire pour effacer la dette que l'on a, si Dieu est juste? Avec quoi? Peut-être on pourrait se dire en compensant avec de bonnes œuvres, mais au final, quand on a fait le mal, on a fait le mal. Mais on voit que pour cet homme, le roi va être ému de compassion. Ça veut dire qu'il va lui remettre la dette, qu'elle va être effacée. Donc cet homme devait une somme astronomique au roi, et finalement le roi va décider de remettre la dette. En d'autres mots, de lui effacer l'ardoise. Il va décider de pardonner. Et c'est pareil avec nous. Lorsque Dieu nous voit dans le péché, lorsque Dieu voit que l'on a fait le mal, il sait très bien qu'il y a un jour qui vient, il va falloir que l'on paye. Mais ce que Dieu veut et ce que Dieu désire, ce n'est pas qu'on paye ce prix, le prix de nos péchés, ce n'est pas que l'on soit puni à cause de nos fautes et qu'on aille en enfer. Ce qu'il veut, c'est que l'on soit pardonné. Et on voit donc que la dette a été remise. Donc on pourrait se dire, mais qui va payer au final? On comprend bien que c'est le roi qui va accepter de perdre pour que la dette soit effacée. Eh bien, c'est exactement, c'est le roi qui a payé. Et au travers de cette parabole, on voit l'œuvre de Jésus. Oui, on est des pécheurs. Oui, on a tous fait le mal. Et à cause du mal que l'on a fait, on mérite l'enfer, mais Dieu pardonne. Mais pour qu'il pardonne, il a fallu que nos péchés soient payés, que la dette, que ce que l'on mérite, soit payé. Et c'est pour cela qu'il a envoyé Jésus-Christ sur une croix, pour payer le prix pour nos péchés. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En d'autres mots, le salut c'est quoi? Ce n'est pas l'homme qui paye le prix pour ses péchés, le salut c'est Jésus, c'est Dieu qui paye le prix pour l'homme. Et parce que Dieu nous aime, il a choisi lui-même de souffrir à cause de nos péchés. Et si un homme peut être sauvé, si toutes les fautes que l'on a faites peuvent être effacées, si tous nos péchés peuvent être pardonnés, c'est parce que Jésus-Christ a payé le prix à la croix. Et parce qu'il a payé le prix, je peux être pardonné. C'est ce qu'on appelle la grâce ou la miséricorde, la compassion de Dieu. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Et qui que l'on soit, quels que soient les péchés que l'on ait faits, quel que soit le mal que l'on ait fait, vous pouvez être pardonné par Dieu, vous pouvez recevoir la paix, vous pouvez recevoir le repos du cœur, la richesse du cœur, en tout cas que les dettes soient effacées. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui a payé le prix à la croix. Mais ça ne s'arrête pas là. On va lire un autre texte que l'on trouve dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 8. Deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 8 et au verset 9. C'est l'apôtre Paul qui parle à cette église à Corinthe. Et voilà ce qui est écrit. « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Donc on voit que l'œuvre de Jésus à la croix, en fait, elle est double. D'abord, le but, c'est d'effacer nos dettes. Ça, c'est la miséricorde de Dieu, qu'il ne nous traite pas comme on mérite. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui a choisi de souffrir, pour que moi, je ne souffre pas. C'est lui qui a choisi de vivre la colère de Dieu, pour que moi, j'en sois exempte du jugement. Et la Bible dit que ceux qui acceptent le sacrifice de Jésus-Christ, ceux qui reçoivent, qui croient en Jésus-Christ, il n'y a plus aucune condamnation pour eux. C'est-à-dire que le jugement est déjà tombé à la croix. Mais en plus de cela, il nous est dit que lorsque Jésus est venu, la grâce de Dieu, ce n'est pas simplement d'effacer nos fautes. La grâce de Dieu, c'est de nous enrichir. Et en plus de ne pas nous traiter comme on mériterait d'être traité, Dieu nous donne ce que l'on ne mérite pas de recevoir. C'est la grâce de Dieu. Et effectivement, déjà le fait de ne pas aller en enfer, c'est la bonté de Dieu. Mais en plus de cela, il nous donne des choses que l'on ne mérite pas. Il nous revêt. Vous savez, à la croix, lorsque Jésus était sur la croix, il a dit « pardonne-leur ». Mais pendant qu'il était sur la croix, il a été dévêtu de ses vêtements et on les a tirés au sort. Et au final, les vêtements qu'il avait, lui, ont servi à quelqu'un d'autre. Et bien, c'est vraiment l'œuvre de la croix. C'est-à-dire qu'il a accepté de perdre ce qu'il avait. Pourquoi ? Pas juste pour le perdre, mais pour nous revêtir, nous. Et si je peux être revêtu d'amour, si je peux avoir de la joie, si je peux avoir de la paix, si je peux avoir même des guérisons, parce que Dieu guérit encore aujourd'hui, Jésus guérit encore des maladies aujourd'hui, si je peux avoir toutes ces choses que personne ne mérite, c'est uniquement parce qu'il a accepté de payer le prix, de descendre du ciel pour mourir sur une croix, parce que son but et ce qu'il voulait, c'est que l'on puisse être enrichi. Je vais relire ce verset, 2 Corinthiens 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. C'est ce que Jésus a fait. Et il efface la dette et il nous donne toutes ces choses que l'on ne mérite pas. Et entre autres, le ciel. Le ciel. Et enfin, j'aimerais qu'on voit une autre chose encore, une dernière chose. C'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 15. On va voir que là encore, il y a une parabole. Et on va voir un homme riche. Mais cet homme riche, il va tout perdre. C'est ce qu'on appelle souvent la parabole du fils prodigue. Et on voit un homme qui avait des richesses. Mais on va voir ce qui lui est arrivé. C'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 15 et au verset 27. On va lire à partir du verset 11. Il dit encore, c'est Jésus qui parle, « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et leur père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, parti pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Il a tout perdu. Lorsqu'il eut tout dépensé, donc on pourrait dire qu'il est devenu pauvre, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva, et alla vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. On voit un homme qui avait tout perdu. Lui, il était riche. Ça, c'est l'image du chrétien, qui avait la richesse, qui avait la paix, qui avait la joie, qui avait cet amour, le fait de se donner pour les autres. Et à un moment, il a voulu dissiper son bien en vivant dans la débauche. Et ça, ça peut être la vie de quelqu'un qui avait les richesses, qui était chrétien, et qui à un moment a tout dilapidé, a tout perdu, les richesses qu'il avait. Mais dans cette parabole, encore une fois, on voit la grâce de Dieu. Lorsque cet homme qui avait tout perdu, tout ce que Dieu lui avait donné, il l'a perdu, il est revenu vers le Père. Qu'a fait le Père? Elle lui a demandé de rembourser la dette? Non. Il lui a demandé de ne plus être un fils, mais d'être un ouvrier, c'est-à-dire de travailler, de mériter les bénédictions, les richesses? Non. Il l'a embrassé. Parce que vous voyez, pour Dieu, ce qui a encore plus de valeur que les choses qui ont de la valeur, c'est nous. Et pour ce Père, ce qui avait de la valeur, ce n'était pas son argent qu'il a perdu. Pour ce Père, ce qui avait de la valeur, c'était le Fils. Et vous voyez qu'au final, le Fils, s'il a tout dilapidé, c'est parce qu'au final, ce qu'il préférait, ce n'était pas le Père, c'était l'argent. C'était ce que ça pouvait lui rapporter. Et je crois vraiment que c'est important de réaliser que ce qui a de la valeur pour nous, enfin ce qui a de la valeur pour Dieu en tout cas, c'est nous-mêmes. Dieu vous aime. Et ce qu'il veut, ce n'est pas qu'on le serve pour mériter des choses, ce qu'il veut, c'est tout simplement que nous aussi, nous puissions l'aimer. Et si quelqu'un s'est éloigné de Dieu, si quelqu'un avait toutes ces choses et les a perdues, il est encore temps de revenir à Dieu. Et Dieu ne vous demandera pas de rembourser. Non, il a lui-même payé le prix pour que vous soyez pardonné. Dieu ne vous demandera pas de mériter maintenant parce que vous vous êtes raté. Non, ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est tout simplement avoir cette relation avec lui. Et on voit qu'il dira que mon fils que voici était mort, c'est-à-dire qu'il était loin de lui, et il est revenu à la vie. Pourquoi? Parce qu'il est revenu au Père. Et quelle que soit la dette qu'il puisse y avoir, quel que soit le péché, Dieu pardonne. Quelles que soient les choses que même on a pu perdre, Dieu restaure. Et on voit, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, on voit vraiment la grâce. En plus de le réaccueillir comme fils, le Père va dire, apportez-moi vite la plus belle robe. C'est pas la dernière, hein, ou la robe classique, la plus belle. Et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt. L'anneau, c'est l'alliance. Vous savez, ça n'a pas tardé. Hein. Il a refait alliance aussi. Dès que le fils est revenu, l'alliance a été réenclenchée. L'anneau. Et mettez-lui des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Amenez le veau gras. Le veau gras, c'était le veau qu'on réservait pour les grandes occasions. Là-bas, de ce temps-là, en Israël, ils avaient un veau qu'ils engraissaient toute l'année. Et quand c'était le jour de fête, la grande fête, ils mangeaient le veau gras. Et vous savez, dans cette parabole, Jésus le montre, et il y a plusieurs paraboles, mais elles finissent tous par la même chose, c'est qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent, pour un pécheur qui se repent. Et vous savez, lorsque l'on se repent, lorsque l'on revient à Dieu, et il y a de la joie dans le ciel. Il y a de la joie. Parce que ce que Dieu aime, c'est que ses créatures reviennent à lui. Et peut-être que vous êtes loin de Dieu, mais vous pouvez revenir. Et cet après-midi, peut-être que même vous ne saviez même pas que Dieu vous accueillait. Eh bien si, Dieu vous accueille. Et ce qu'il veut, c'est que vous veniez dans sa présence. Et si vous venez dans sa présence, si vous arrêtez de vous appauvrir en péchant, en faisant du mal aux autres, en accumulant la dette sur dette sur dette, et en ayant peur de la mort, parce que vous savez très bien qu'un jour vous devrez payer le prix pour ce que vous avez fait, vous pouvez venir à Jésus, être pardonné de vos péchés, recevoir la paix. Et en plus de cela, en plus de la paix, recevoir la présence de Dieu dans votre vie. Et si vous avez la présence de Dieu dans votre vie, en fait, vous êtes le plus riche des hommes, quels que soient les biens que vous avez. Mais même l'homme le plus riche, alors je ne le connais pas, hein, celui dont j'ai parlé tout à l'heure qui avait les 131 milliards, mais si même cet homme-là, s'il n'avait pas Jésus dans sa vie, il est pauvre. D'ailleurs, Jésus dira, mais que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Et au final, on a le choix. On a le choix. On va incliner nos têtes, on va prier le Seigneur, on va lui demander sa grâce. Merci Seigneur Jésus parce que tu es présent au milieu de nous. Et merci parce que ta parole nous rappelle que tu pardonnes tout péché et toute iniquité à qui se repent, à qui revient à toi. Seigneur, merci parce que ce pardon, il est gratuit pour nous, c'est un don que tu donnes, mais il t'a coûté cher. Si tu es mort à la croix, Seigneur, c'est pour nous pardonner de tous nos péchés. Et merci parce qu'encore cet après-midi, c'est ton désir, c'est de pardonner le pécheur. Tu dis que tu n'es pas venu pour ceux qui étaient bien portants, mais que tu es venu pour les malades, pour ceux qui souffraient, Seigneur. Tu étais venu pour guérir les cœurs brisés. Et Seigneur, merci parce qu'encore cet après-midi, c'est ton œuvre que de pardonner, mais aussi, Seigneur, de venir dans un cœur. Oui, Seigneur, il y a quelque chose de plus riche que toutes les richesses de ce monde, que tout l'or et l'argent de ce monde, c'est de t'avoir dans une vie. C'est d'être aimé de toi et de t'aimer en retour. Tu vois nos vies, Seigneur, tu vois s'il y en a qui se sont éloignés de toi, merci parce qu'encore une fois, tu les accueilles, tu les purifies, tu les laves, mais en plus de cela, tu les revêts d'habits précieux, tu refais alliance et tu mets la joie dans le cœur, mais aussi dans l'Église et dans le ciel pour un pécheur qui se repent. Alors merci Seigneur Jésus et que toute la gloire te revienne parce que c'est au prix de tes souffrances, c'est parce que tu as choisi de t'appauvrir pour nous enrichir, que nous pouvons avoir ces choses. Et nous te disons merci de tout notre cœur, Seigneur. Amen.